Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, émission préparée par Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Pierrick Monsigny. La recherche française, côté pile, une moisson de cocorico. Jean Tirole, prix Nobel d'économie 2014. Arthur Avila, co-lauréat de la médaille Fields. Nouveau roi des mathématiques, donc, 4 ans après son compatriote Cédric Villani en 2010. Et entre les deux, Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012. Une excellence scientifique reconnue au niveau mondial, comme s'en glorifie le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur son site internet. Et maintenant, côté face, un tableau beaucoup moins glorieux, où il est question de précarité, de baisse des budgets de fonctionnement, de manque de reconnaissance pour le travail des chercheurs, d'obligation pour ces derniers à orienter leurs travaux vers la recherche appliquée plutôt que fondamentale s'ils veulent obtenir des crédits. Nos laboratoires sont dans un état dramatique, se désespèrent les 660 directeurs de labos signataires d'une lettre adressée au chef de l'État le 13 octobre dernier. Alors cette dernière initiative est loin d'être isolée. L'Académie des sciences en a fait autant quelques jours plus tôt, s'inquiétant d'un pays qui commence à perdre les meilleurs talents des nouvelles générations. Mais il faut rendre au collectif Science en Marche ce qui lui appartient, à savoir le lancement d'une mobilisation en juin dernier, avec comme point d'orgue la manifestation du 17 octobre à Paris, au terme d'un parcours à bicyclette ralliant les grandes villes universitaires. Alors qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans la recherche française? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Geneviève Fioraso. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, poste que vous occupez depuis le début du quinquennat, même si au début vous étiez ministre. Je ne sais pas d'ailleurs si ça a changé quelque chose à votre périmètre d'action, si c'est exactement la même chose.
Non, c'est simplement qu'il y a eu un resserrement des ministères et que du coup le ministère de l'Éducation nationale a été regroupé avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, comme ça a été le cas dans le passé. Hubert Curien a connu exactement le même parcours que celui que j'ai connu, donc ça ne change rien. J'ai eu plusieurs ministres d'ailleurs, et successifs, et ça s'est toujours très bien passé. Il y a une spécificité de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est indéniable. C'est moins centralisé, il y a plus d'autonomie, il y a davantage de pluralisme sur les territoires. Et dans le même temps, il y a tout de même un lien avec l'éducation nationale parce qu'il y a des questions d'orientation. On parle du moins 3 plus 3, donc 3 ans avant le bac, 3 ans après le bac. Il y a des barrières aussi à faire tomber entre les années lycées et les années université. Donc finalement, c'est une bonne chose.
En tout cas, donc, vous êtes une des rares ministres ou secrétaires d'État à occuper le même poste finalement depuis 2 ans et demi, ce qui vous permet sans doute d'assumer le bilan de ce qu'est l'enseignement supérieur et la recherche aujourd'hui en France. Il y a d'ailleurs une loi qui porte votre nom, qui a été votée l'an dernier et dont les décrets d'application sont progressivement signés et validés. Vous avez accepté ce soir de discuter avec deux membres du collectif Science en Marche. Vous en avez d'ailleurs reçu certains à la fin du mois de septembre, parmi lesquels son porte-parole, Patrick Lemaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes biologiste, directeur de recherche au CRBM, Centre de recherche de biochimie macromoléculaire à Montpellier. Un mot juste de ce collectif Science en Marche. C'est un mouvement qui s'est formé en marge des syndicats, mais pas forcément sans lien avec eux, ni peut-être sans lien avec le précédent grand mouvement en 2004, qui était celui de Sauvons la Recherche, dont on avait à l'époque évidemment beaucoup parlé.
C'est un mouvement qui ne s'est pas formé en marge des syndicats. Les syndicats sont des partenaires dans ce mouvement depuis le début.
Disons que ce n'est pas un mouvement syndical.
Mais ce n'est pas un mouvement syndical et de la même manière, ce n'est pas un mouvement qui est politiquement partisan. Il y a des connexions avec Sauvons la Recherche d'il y a une dizaine d'années, en partie parce que ça a également donné un petit peu une idée de ce qu'il était possible de faire ou de ne pas faire pour fédérer l'enseignement supérieur et la recherche.
Alors témoin de ces connexions, Sophie Duchesne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous aussi donc membre de ce collectif, vous êtes politiste et directrice de recherche à l'Institut des sciences sociales du politique à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, ça dépend du CNRS, coordinatrice des instances du Comité national de la recherche scientifique qui s'est réuni en juin dernier. Et puis je crois que vous avez aussi été assez active dans la rédaction de la lettre des 660 directeur de la Beaux Lettres adressée au président de la République, comme je le disais tout à l'heure, le 13 octobre dernier. Alors, avec vous trois, je voudrais qu'on discute, évidemment, des problèmes que vous mettez en avant à travers cette mobilisation. Il y a, on va dire, deux grandes catégories de sujets qui sont évoqués. C'est la question des moyens financiers et puis la question de l'emploi. Je vous propose de commencer par la question des moyens financiers et du budget, Geneviève Fioraso. Sur le site du ministère, j'ai vu que la recherche, chaque année, ça représentait 45 milliards d'euros, dont 16,5 milliards de financement public. Est-ce qu'on peut dire déjà, puisqu'on est en pleine discussion du projet de loi de finances, qu'en 2015, c'est un budget qui sera quoi alors ? Sanctuarisé, c'est ce qu'on dit en général pour dire que ça n'augmente pas ?
Oui, enfin, c'est l'un des rares budgets qui ne diminuera pas. Vous savez que le premier poste de dépense publique aujourd'hui, c'est la dette. C'est le remboursement de la dette. Donc, ce qui obère l'avenir des générations à venir, tout autant que le fait de ne pas investir dans l'éducation et la recherche. C'est pourquoi les budgets de l'éducation et de la recherche ont été sanctuarisés. C'est le terme qu'a utilisé le président de la République et qu'il répétera, je pense, le 6 novembre lors de son allocution.
Le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est le troisième budget de l'État. Donc, oui. Là, on peut se dire que c'est extrêmement important, mais en part du produit intérieur brut, puisque c'est un des critères qui est examiné. Ça faisait d'ailleurs partie des engagement européen il y a quelques années de ça. L'idée, c'était de dire il faut que ça représente 3% du budget de l'État. On en est quand même encore assez loin, Geneviève Fioraso.
On est à 2,3% et quand on regarde de près, on en voit les raisons. La part publique est dans la moyenne, est au-dessus de la moyenne de l'OCDE et elle se situe pas très loin de celle de l'Allemagne. On est entre 0,8 et 0,9%, suivant qu'on intègre ou pas les crédits du programme des investissements d'avenir, qui tout de même chaque année amène 1 milliard d'euros à la recherche. Donc si on regarde la part publique, elle est équivalente à celle qu'on peut trouver dans les pays voisins européens au même niveau de développement. Ce qui n'est pas suffisamment important, c'est la part privée. Et c'est ce qui nous différencie de l'Allemagne, qui, elle, atteint quasiment les 3%, alors que nous avons un peu monté en 2 ans, mais nous sommes à 2,3% et nous ne sommes pas effectivement à 3%. Mais quand on regarde de près aussi les choses, parce qu'il faut être complètement objectif, après on pourra parler des problèmes différenciés sur le terrain, mais de façon complètement objective, quand on regarde l'industrie allemande, sa taille, l'industrie française, sa taille, et le pourcentage de R&D consenti par le privé, on s'aperçoit qu'il y a exactement le même rapport d'échelle. Donc ce qui veut dire que si la part privée en France est inférieure en pourcentage à celle de l'Allemagne,
c'est parce qu'il y a pas
c'est parce que nous avons perdu 1 million d'emplois dans l'industrie au cours des 12 dernières années. Donc le sujet, c'est un peu l'œuf et la poule, parce que si on n'irrigue pas en innovation ou en innovation de rupture avec la recherche fondamentale, une partie de la recherche fondamentale, on risque pas de faire évoluer l'industrie, donc de monter en gamme les produits et services. Mais d'un autre côté, il faut bien, moi j'ai pris la situation telle qu'elle était il y a 2 ans. Et la situation telle qu'elle était il y a 2 ans, elle était comme ça, comme je viens de la décrire.
Bon, objectivement, Patrick Lemaire, est-ce qu'il y a un problème global de budget pour la recherche en France ? Et est-ce que vous êtes d'accord pour dire, avec Geneviève Fioraso, que le problème, il est avant tout du côté de la recherche privée, pas de la recherche publique ?
Alors, il y a un problème de recherche publique, en ce sens que les chiffres que Madame Fioraso mentionne incluent également l'effort public de recherche militaire. Donc si on exclut cet effort public de recherche militaire, qui n'est pas présent dans certains autres pays, eh bien, on s'aperçoit que notre contribution nationale à l'effort de recherche publique est plus faible significativement à ce qui se passe dans un pays comme l'Allemagne.
Moi, j'ai relevé un chiffre, par exemple, celui de l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, qui a été créée en 2005. Donc, c'est une agence qui distribue des financements sur projet pour la recherche publique. On va d'ailleurs parler de sa politique d'appel à projet, mais simplement les chiffres. Le budget de l'ANR, Geneviève Fioraso, est passé entre 2012 et 2014 de 760 à 575 millions oui. d'euros.
Avec une redistribution de 70 millions d'euros en crédit récurrent dans les laboratoires, parce qu'on était passé un peu brutalement d'une logique tout crédit récurrent à un début de logique appel à projet, mais qui s'était fait sans formation, sans accompagnement et surtout sans gestion prévisionnelle des emplois et qui est à l'origine de pas mal de déboires que l'on connaît aujourd'hui dans certaines disciplines comme la biologie, là où les CDD ont été embauchés un peu facilement pour répondre aux appels d'offres. Je voudrais revenir une minute sur la recherche. militaire, elle sert de levier. Moi, j'ai beaucoup d'exemples à vous donner de recherches qui ont été menées dans le domaine militaire et qui ensuite ont des applications dans le domaine civil. Donc c'est aussi un levier formidable pour la recherche. Et de nombreux chercheurs, d'ailleurs, regrettent l'époque où la DGA et auparavant l'ancêtre de la DGA disposaient de davantage de crédits parce que c'est un levier formidable.
Voilà, déjà, c'est la direction générale des armées.
Je voulais simplement insister sur le fait que si l'on compare avec d'autres pays, il faut comparer à périmètre comparable.
Ben non, parce que le levier est exactement le même. Ce sont de vrais chercheurs. J'étais à la DAM l'autre jour au CEA, à direction des affaires militaires. J'ai vu des vrais chercheurs, c'était des docteurs. Donc c'est aussi un débouché pour les docteurs. Donc je ne vois pas pourquoi on le différencierait. Personne n'est obligé d'aller dans cette voie-là. Mais c'est une voie de recherche extrêmement intéressante. Sophie défendre Duchesne. Son pays, c'est aussi intéressant.
Sophie Duchesne, je vous entends rire.
Oui, non. La question du levier des dépenses militaires, c'est un peu une autre question. Revenons peut-être sur la baisse des dépenses de l'ANR et effectivement le transfert qu'il y a eu au début d'un certain nombre de millions sur les crédits récurrents. Le problème, c'est que, de fait, ces crédits récurrents sont en diminution constante parce que sur le budget qui reste à l'heure actuelle et donc qui est sanctuarisé, on sait qu'il y a des augmentations mécaniques de coûts autour des salaires notamment qui font qu'aujourd'hui, dans les organismes, mais ça en particulier, la part qui peut être juste attribué à ces crédits de base des laboratoires baisse sans arrêt. Donc c'est vrai qu'il y avait une demande que la baisse des financements de l'ANR permette de mieux financer les laboratoires, mais le résultat c'est qu'on perd tout, c'est-à-dire que ce transfert il a été très bref et maintenant on se retrouve avec moins de crédits récurrents et des taux de succès de l'ANR qui sont devenus ridicules.
Alors il faut expliquer ce que sont ces crédits récurrents, on peut dire que c'est quoi ? C'est le budget de base de fonctionnement qui est indépendant de ce que vont pouvoir donner par exemple les appels à projets.
C'est simplement ce que les organismes de recherche ou les universités peuvent distribuer à leurs laboratoires eux-mêmes.
Alors il y a les directeurs de laboratoire, justement dans leur lettre au chef de l'État, qui insistent sur cette question, Geneviève Fioraison, en disant « Depuis l'instauration du financement de la recherche par appel à projet, notamment donc ceux de l'ANR, le financement direct des laboratoires s'est vu réduit à sa plus simple expression. Il ne couvre même pas le fonctionnement courant des laboratoires. » Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la recherche française, pour avoir un budget, il faut absolument répondre à des appels à projets, que si on ne le fait pas, on n'aura pas un budget minimum de fonctionnement.
Alors je crois qu'il faut remettre aussi, là aussi les choses en perspective. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que la recherche reçoit toute la considération qu'elle mérite. Moi j'ai beaucoup de considération pour la recherche et les chercheurs. C'est un métier difficile, c'est un métier de patience et... Voilà, je voulais d'abord dire ça.
Vous seriez ministre et vous diriez l'inverse, ça m'aurait étonné quand même.
Non, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Quand vous allez dans le laboratoire, vous voyez de la passion. Je ne veux pas qu'on donne l'idée d'une recherche qui sera en berne. Il y a énormément de gens passionnés dans les labos de recherche.
Il y a beaucoup de passionnés, mais il y a beaucoup de gens qui râlent quand même.
Oui, mais on peut être passionné et râler. C'est pas forcément antinomique. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la recherche sur appel à projet, elle représente 10% de l'ensemble du financement de la recherche. C'est le pourcentage le plus faible au monde. Alors moi je suis attachée au modèle de la recherche publique française et je ne me battrai pas pour le modifier de façon brutale. Mais néanmoins, lorsqu'on voit que l'Allemagne est à 40% de financement sur appel à projet, on peut quand même se poser là aussi des questions. Il ne faudrait pas que la recherche française soit totalement décalée par rapport à l'ensemble de la recherche. Par ailleurs, nous sommes trop peu présents dans les projets européens. Nous sommes les meilleurs quand nous présentons des projets, mais nous ne sommes pas les meilleurs parce que nous n'en proposons pas suffisamment. On perd 600 millions d'euros de recettes par an. Et j'ajoute que les recettes pour les laboratoires sont restées exactement les mêmes. Il y a une constance.
Patrick Lemaire et Sophie Duchesne.
Si je peux intervenir sur les projets européens, parce que j'ai été membre de beaucoup de projets européens. Et en fait, j'arrête de demander. Et j'arrête de demander simplement parce que l'infrastructure administrative qui est derrière en France rend ces projets extrêmement difficiles à gérer. Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai arrêté de demander. Donc mon laboratoire est financé, dans mon cas, mais plus sur des crédits européens de type Horizon 2020.
Alors je vais vous dire juste un mot, c'est dommage parce que j'ai obtenu de l'Europe un préciput, alors c'est un peu technique. Préciput, c'est ce qui permet de financer tous les frais de fonctionnement. Hein, tous les frais d'infrastructure, de ce qu'on appelle les frais environnés du chercheur. Parce qu'un chercheur, sans chauffage, sans fluide, sans locaux, il sait pas, sans ordinateur, il ne sait pas comment travailler. Donc j'ai obtenu de les monter à 25%, de les monter à l'ANR aussi à 15%, alors qu'ils étaient faibles. Et je tente de les remonter pour les programmes d'investissement d'avenir. C'était à 4%, ils sont à 8%. C'est très important parce que ça équivaut à des crédits récurrents. Donc c'est dommage que vous en priviez.
Mais là, je parle de crédits de personnel administratif.
Ça veut dire que si vous ne le faites pas, enfin, je ne sais pas si c'est aussi votre cas, Sophie Duchesne, mais c'est parce que c'est trop compliqué ou parce que vous considérez que ça n'est pas à vous d'effectuer ce travail de recherche, que la recherche est dans un laboratoire et ce n'est pas aller toquer aux portes pour obtenir des financements. C'est un petit peu ce que disait le rapport de la Cour des comptes en juin 2013, disant c'est un petit peu dommage effectivement que les chercheurs français ne profitent pas davantage des subsides européens parce que c'est en baisse constante et les chercheurs ne font pas assez d'efforts peut-être pour aller chercher ces crédits.
Avant de répondre sur l'Europe, parce que j'ai eu aussi des crédits européens, donc je peux y répondre, mais je voudrais juste, pour les auditeurs qui ne font pas de la recherche tous les jours, de dire les chercheurs les chercheurs ne veulent pas aller chercher des appels à projets, ils voudraient des crédits qui tombent comme ça. Ça a l'air de dire qu'en gros, on n'est pas capable de faire des projets de recherche. Je voudrais quand même dire que, y compris les financements dans les laboratoires, c'est toujours sur des programmes de recherche. Les laboratoires eux-mêmes sont évalués régulièrement, ils ne restent des laboratoires et ils ne gardent leur financement que s'ils font la preuve que leurs programmes vont au bout. Ça me paraît quand même important de le dire. Le financement dont on parle, ce sont des financements qui sont très spécifiques sur des projets, sur des délais qui en France sont par ailleurs relativement courts, hein, c'est en gros 4 ans. Et c'est cet argent-là qu'il faut aller prendre pour des projets particuliers, mais on est toujours dans la recherche sur projet. Vraiment, je pense que c'est important parce que sinon, on a l'impression que nous, on travaille comme ça sans s'occuper de rendre des comptes.
Mais ce que disait Geneviève Fioraso, ça représente 10% de l'ensemble des budgets. C'est pas grand-chose. Ça veut dire quand même que 90%, c'est quoi? C'est du budget fixe.
Des salaires.
Et donc, il permet aussi d'anticiper
la matière grise.
Donc, Patrick Lemaire. Là, je peux simplement reprendre le cas de mon équipe. Donc, dans mon équipe, nous sommes une dizaine. Il y a 3 salaires qui sont payés par le CNRS. Donc, moi, je suis dans une unité mixte CNRS-Université de Montpellier. Et donc, hors de ces 3 salaires, essentiellement, ce qui arrive pour faire des expériences dans mon équipe, c'est rien.
Et les autres salaires, c'est quoi? Sont les des autres universitaires, enseignants-chercheurs?
Non, pas du tout. C'est des salaires qui sont intégralement sur projet. Ce sont des stagiaires. Alors, j'ai la chance de pouvoir encore prendre des stagiaires de master. Beaucoup de mes collègues ne peuvent plus parce que, pour des raisons simplement comptables, de budget pour payer ces étudiants. Et le reste est intégralement sur projet. Donc, dans mon cas, finalement, 100% de la recherche hors de ces 3 salaires...
Donc, sur
10,
ça fait
projets.
70%, vous.
Donc, ce n'est pas du tout 10%. Et je pense que c'est le cas dans beaucoup de laboratoires de biologie, ouais, 10, notamment.
10%, comment on peut faire dans le laboratoire de Patrick Lemaire?
10%, c'est la moyenne. Ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà. Quand on a une moyenne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des domaines dans lesquels il n'y a pas de problème. Et je pense que dans la biologie et dans 2 disciplines des SHS, enfin des sciences humaines et sociales, pardon, il y a des problèmes. Mais il y a des problèmes aussi... parce qu'il y a eu un afflux d'étudiants vers la biologie. Moi, je regarde cette année les étudiants en biologie. Mmh. On a eu, vous prenez l'université Paul Sabatier à Toulouse, on a eu l'an dernier plus 200 étudiants, cette année plus 200 étudiants. Prenez l'université Joseph Fourier à Grenoble, on a eu plus 25% d'étudiants en sciences, dont une bonne partie en biologie, parce que les filles qui sont scientifiques vont davantage en biologie qu'en physique ou en maths, là où les docteurs, en particulier, ne connaissent que 3% de chômage. Donc on a aussi un problème en amont d'orientation et de régulation des flux.
Il faudrait quoi? Limiter le nombre d'étudiants ou alors créer davantage de postes?
Ça peut être en aval.
C'est en aval. En amont, c'est quand même important d'avoir des physiciens, des mathématiciens quand on en manque. Et de faire en sorte que les filles ne soient pas toutes en biologie. Parce que si les objets de demain sont construits par 100% d'hommes pour 51% de femmes, ça n'ira pas du tout.
Alors, vous évoquiez la lourdeur administrative liée aux appels à projets. Moi, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous, Patrick Lemaire et Sophie Duchesne. C'est le regroupement de certaines universités et organismes de recherche. Est-ce que ce regroupement, ça peut peut-être permettre de mutualiser les forces et d'avoir, plutôt que des laboratoires dispersés qui chacun dans leur coin vont chercher des crédits, essayent de travailler ensemble et peut-être de réaliser des économies d'échelle, Sophie Duchesne?
Oui.
Parce que le regroupement des universités, des organismes de recherche, ça c'est aussi un sujet qui fait beaucoup parler dans votre milieu universitaire.
Alors oui, c'est quand même toutes ces questions de regroupement posent d'abord une question de dynamique. D'où viennent ces regroupements? Qui les demande? Quels sont les objectifs? Il y avait un gros objectif qu'on nous a en tous les cas proposé, qui était un objectif de visibilité internationale, qui sincèrement pose problème dans la mesure où ces regroupements constituent finalement des universités gigantesques et les universités qui s'en sortent le mieux dans le monde et qui fonctionnent bien ne sont pas du tout nécessairement de cette dimension-là. Une des choses importantes dans la recherche et dans l'enseignement supérieur, c'est aussi la création de collectifs. Hein. C'est particulièrement vrai pour les laboratoires de recherche et la capacité en fait des formes d'autonomie des chercheurs et des enseignants-chercheurs à construire leur activité dans la longue durée. Le problème de ces regroupements, c'est qu'ils mettent souvent en cause cette capacité-là. Ça propose beaucoup de mutualisations qui sont souvent des mutualisations qui sont pour le coup pas du tout demandées par les gens qui travaillent. Et pour l'instant, surtout, ça se fait dans un désordre tel que beaucoup de gens ne comprennent absolument plus aujourd'hui à quoi ils appartiennent, quelles sont leurs tutelles, comment ça se regroupe, qui est responsable de quoi, dans un espèce de grand désordre pour nous organisé.
Bon, alors, il y a un autre sujet que je voudrais aborder avec vous.
Juste un mot, Jérémy Furazo. J'ai quand même passé 15 ans dans des conseils d'administration. Ce que vous dites, je l'entendais déjà avec l'augmentation des unités mixtes de recherche à 15 ans. Et finalement, elles ont trouvé une régulation, même si on pourrait un peu simplifier la gestion du personnel.
Parce qu'avoir les fonctionnaires, puisque ça fonctionne.
Donc le regroupement, non, parce que les regroupements, ça va justement permettre d'harmoniser davantage la gestion du personnel et d'avoir peut-être enfin une gestion anticipée du personnel que seule une minorité de laboratoires a aujourd'hui. Moi, je crois qu'il y a une co-responsabilité aussi entre les organismes de recherche et l'État qui dispense les subventions.
Le problème de prévision à long terme et des politiques d'emploi, je ne suis pas sûr que ce soit au niveau des laboratoires qui se pose de la manière la plus aiguë.
Non, mais au niveau des regroupements,
lorsqu'on voit que les investissements d'avenir, 50% à peu près de leur budget consiste à recruter des jeunes scientifiques sur contrat à durée déterminée, je pense que là, l'État a une responsabilité majeure dans la génération de la précarité.
C'est quand même 1 milliard sur 16 milliards et demi.
Mais ça fait 500 millions par an. De contrats à durée déterminée.
Ce qui a beaucoup généré les CDD sont les appels d'offres un peu intensifs qu'il y avait eu lors du précédent quinquennat et pour lesquels il n'y a pas eu beaucoup de gestion prévisionnelle parce que
c'était
au niveau de l'État, un peu brutalement. Il n'y avait pas eu de formation, pas eu d'accompagnement. Moi, je crois que les regroupements, ils sont ce que vous en ferez. C'est-à-dire que c'est vrai que là, c'était la période pénible où on pensait plutôt à la structure qu'au contenu, mais il faut y mettre du contenu. Et ce contenu, c'est vous, les scientifiques, qui le mettraient. Ce sont les enseignants, ce sont les scientifiques qui le mettraient. Saisissez-vous de cette opportunité. Vous aurez un contrat avec l'État, ce qui n'était pas le cas des presses auparavant. Et en dessous, les structures peuvent garder leur agilité. Il ne s'agit pas d'avoir une grosse casquette qui étouffe tout. Tout dépend de comment on regarde les choses.
Sauf que, par exemple, dans les conseils d'administration de ces structures, tous les partenaires ne sont pas nécessairement représentés. Ce qui pose un problème.
Qui, par exemple, n'est pas représenté?
Je pense qu'il faut que 75% des partenaires soient représentés et pas l'intégralité des partenaires.
Mais c'est le cas aujourd'hui, tous les partenaires sont représentés ou quand il y a des mutualisations, c'est par cooptation. Je pense à Saclay, par exemple à la commune de Saclay, qui a 27 partenaires et il y a 23 membres du conseil d'administration.
Alors sortons si vous voulez bien,
c'est la confiance. C'est un peu technique, excusez-nous, mais c'est aussi ça l'organisation.
Oui, mais ce serait mieux que tout le monde soit représenté.
Voilà, alors essayons d'avancer un petit peu, même si...
Il faut mettre de la confiance,
cette question des regroupements et de la mutualisation est évidemment très très, très importante. Je voudrais qu'on aborde une autre question, alors qui là me semble frappé au coin du bon sens, comme on dit, c'est la question du crédit impôt recherche. Ça fait partie des propositions de la Science en Marche. Voilà, je cherchais le nom de votre collectif. Alors, je dis un mot de ce qu'est le crédit impôt recherche. Ça date de 1983, donc ça avait été pris sous le septennat de François Mitterrand. C'est un dispositif fiscal qui vise à encourager les dépenses de recherche privées. Les entreprises qui investissent en fait dans la recherche sont récompensé, disons, par un remboursement d'impôts. Il se trouve qu'en 2008, donc là on est sous Nicolas Sarkozy, c'est déplafonné et qu'on est passé du crédit impôt recherche environ un demi-milliard d'euros à 6 milliards d'euros.
1,8 milliard. On est passé de 1,8 milliard.
De 1,8
milliard. En 2008, d'accord. Voilà.
Oui, mais non, ce que je voulais dire, c'était par rapport à 1983. Voilà, moi, c'était...
Ah,
voilà.
Ah oui, d'accord. Non, mais Sarkozy aujourd'hui, en 83, non. C'était pas lui, quand même, en 83.
Aujourd'hui, en tout cas, on serait pas... Oui, non, bien sûr. Aujourd'hui, on serait pas loin de 6 milliards d'euros. Et ce que Science en marche. Bah, je vais vous laisser le dire, d'ailleurs, Sophie Duchesne, c'est en gros quoi ? C'est que ces dispositifs-là, ils sont vus comme des aubaines par les entreprises, mais que l'effet de levier ne fonctionne pas, c'est ça ? Sophie Duchesne ou Patrick Lemaire,
celui... Simplement, je vais peut-être laisser Patrick Lemaire revenir sur le détail, mais ce n'est pas Science en marche qui le dit, ni personne. Il y a des gens qui le disent, c'est la Cour des comptes en particulier, c'est l'OCDE, c'est repris donc, par toute une série d'instances qui ont étudié ces chiffres-là et qui, pour le coup, nous ne faisons que reprendre les résultats de leurs analyses qui concluent à au moins 1 milliard d'optimisation fiscale à l'heure actuelle.
Et vous en tirez quelles conclusions alors, Patrick Lemaire ?
Alors, avant peut-être de tirer des conclusions, il faut revenir à ce que fait le crédit d'impôt recherche. Et ça, c'est également issu d'un rapport que vous avez commandé, madame, le rapport L'Huillerie en 2013. Donc l'idée de départ était que le crédit d'impôt recherche allait dynamiser la recherche privée et l'innovation, et aller faire ça avec un effet d'entraînement. C'est-à-dire que pour tout euro investi par l'État, eh bien, les industriels allaient investir à leur tour vers la recherche.
Le fameux effet levier que connaissent bien les économistes.
Et en fait, cet effet levier n'a pas lieu. C'est-à-dire qu'il y a 8 centimes d'euros investis par les entreprises pour 1 euro de non-perception d'impôts. Donc ça ne marche pas vraiment très bien. Et dans certains segments, c'est ce que dit le rapport L'Huillerie, il y a même moins d'un euro qui est investi. C'est-à-dire qu'il y a un effet de substitution, ce qu'on appelle un effet de substitution.
Donc vous dites quoi ? Vous replafonnons le crédit d'impôt recherche et l'argent ne sera pas économisé.
Alors avant ça, on peut se demander également, donc une part importante de notre problème actuel, c'est l'emploi. Et actuellement, les entreprises privées, grâce en partie au crédit d'impôt recherche, créent 5 500 emplois par an, ce qui fait à peu près 1 million d'euros par emploi, donc 1 million d'euros de subventions publiques pour un emploi privé, ce qui fait un petit peu cher de l'emploi. Et enfin, la dernière chose, c'est que c'est un mécanisme qui est extrêmement complexe et qui fait qu'il y a toute une série d'officines qui ont été créées pour aider les entreprises à monter leurs dossiers. Et ces officines se rémunèrent entre 15 et 50% des sommes qui permettent d'économiser aux entreprises.
Donc, qu'est-ce qu'on fait du crédit impôt recherche ?
Donc, qu'est-ce que nous proposons ? Nous proposons que, comme François Hollande d'ailleurs l'avait proposé en 2012, une partie de l'ordre de 2 milliards d'euros de ce crédit impôt recherche soit redéployée vers l'enseignement supérieur et la recherche. C'est-à-dire que l'enseignement supérieur et la recherche publique bénéficient, sans toucher aux autres secteurs de l'État, d'argent suffisant pour pouvoir se développer.
Pourquoi cette idée ne vous plaît pas, manifestement, Geneviève Fioraso ?
La question n'est pas de savoir si cette idée me plaît ou pas. Le crédit impôt recherche, ce n'est pas une somme qui est disponible, ce sont des impôts qu'on ne perçoit pas. Et ce sont des crédits fiscaux qui permettent aux entreprises de continuer en période de crise, parce qu'on est quand même en période de crise économique, à continuer à investir en France et qui en plus sont des facteurs d'attractivité pour des centres de recherche privés étrangers.
Oui, avec un ratio d'efficacité pas terrible, nous dit Patrick Lemaire.
Oui, mais qu'est-ce que ce serait s'il n'y avait pas ce système d'incitation ? Parce que nous sommes dans un pays où quand même les charges salariales sont élevées, le coût du travail est plus élevé qu'ailleurs. Quoi qu'on en pense, c'est pas assez objectivé là comme constat. Et donc, c'est un facteur incontestable d'attractivité. Moi qui habitais plutôt, depuis que je suis ministre, un peu moins en région grenobloise, je peux vous dire que des entreprises de microélectronique où j'ai présidé un centre de micro-nano pendant des années ne seraient pas venues s'installer à Grenoble et travailler avec la recherche publique, que ce soit l'UJF, le CNRS, le CEA ou les grands instruments, s'il n'y avait pas eu ce crédit impôt recherche.
Mais sans le supprimer, est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu mieux le paramétrer ?
Le président de la République, parce qu'il veut continuer à attirer les investissements qui déterminent l'avenir, finalement, donc en recherche, en innovation, l'a conforté et en particulier, nous l'avons davantage orienté vers les PMI-PME et nous avons conforté le statut de jeune entreprise innovante. Donc il y a aujourd'hui plus de 50%, c'est même 60% de PME, d'entreprises de taille intermédiaire et de jeunes entreprises innovantes qui bénéficient de ce crédit impôt recherche alors qu'elles étaient moins de 30% avant. Pour autant, la somme en valeur absolue est plus importante pour les grandes entreprises, évidemment, puisqu'elles perçoivent des sommes plus importantes. Mais c'est tout de même, il y a tout de même un plafonnement. Donc les avantages sont plus importants que les quelques inconvénients que comporte absolument tout dispositif fiscal. Et contrairement au fantasme, il n'y a pas d'organisme bancaire qui ferait des fausses recherches et qui bénéficierait de ce crédit impôt recherche. recherche. Non, il concerne bien les entreprises. Il a un effet levier en période de crise. Donc le président de la République et le gouvernement ont décidé de le sanctuariser pour les trois prochaines années.
Donc je veux bien concevoir vos arguments. Le problème, c'est qu'aucune statistique ne les était.
J'ai les chiffres à votre disposition.
Alors, ce que la communauté scientifique apprécierait beaucoup, c'est que la base de données GEDIF soit mise à disposition.
Alors, qu'est-ce que c'est la base de données GEDIF?
Anonymisée.
Moi qui ne fais pas partie de la communauté scientifique.
Donc, une base de données qui permet, donc, comme c'est un dispositif fiscal, les données ne sont pas publiques puisqu'il y a un secret fiscal.
Mais moi-même, je n'ai pas accès, c'est Bercy.
Il existe, tout à fait, c'est un des problèmes, je pense. Et donc, il existe une base de données qui peut techniquement tout à fait être rendue anonymisée pour que la communauté scientifique puisse voir effectivement ce qui se passe.
Mais j'ai les chiffres globaux, donc il n'y a pas de théorie du complot, on ne cache rien. C'est simplement l'anonymie fiscale qui est normale, ce qui s'applique à vous et moi également.
Par exemple, ce que vous dites sur les PME, si on prend la définition PME au sens de la communauté européenne, c'est-à-dire qui n'est pas affiliée à un grand groupe,
pourcentage... Non affiliée à un grand groupe.
Non, ce n'est pas 60% alors. C'est pas 60%, je crois que c'est aux alentours de 24-25%.
On essaiera d'accéder à cette base de données GEDIF.
Ça a beaucoup augmenté au cours des 8 dernières années.
Sophie Duchesne, est-ce que à travers cette demande de révision de ce qu'est aujourd'hui le crédit impôt recherche, qui est un dispositif extrêmement important depuis des années, est-ce que ça n'est pas aussi la recherche publique qui exprime une forme de jalousie par rapport à la recherche privée, qui considère que c'est d'abord au public et donc finalement à l'État de piloter la recherche. Parce que dans les reproches que vous faites un petit peu au privé, on entend aussi des fois des reproches qu'on peut faire au public.
Non, je pense que c'est vraiment pas du tout la question. En fait, si une partie du débat est arrivée sur le crédit impôt recherche, c'est juste parce qu'il y a, disons, des preuves, une fois encore, des rapports et parlementaires et de l'OCDE et de la Cour des comptes qui disent qu'il y a de l'optimisation fiscale qui, même en tant que citoyen, et sans parler même du fait qu'on est chercheur ou enseignant-chercheur, ne nous plaisent pas. Et que ces budgets, donc certes, ce ne sont pas des recettes, hein, mais sont quand même pris en compte dans l'effort français pour la recherche.
Les chercheurs du privé, ils partagent vos préoccupations, par exemple ?
Alors, les chercheurs du privé, notamment, il y a des contacts avec un certain nombre de syndicats, justement, à l'intérieur de ces grandes entreprises ou entreprises qui touchent le crédit impôt recherche et qui, eux-mêmes, constatent quand même que les entreprises, certaines entreprises, ont de plus en plus, le cas très souvent cité, c'est Sanofi, touchent de plus en plus de crédit impôt recherche et pour autant les licencient dans les laboratoires. Donc, ils ont exactement les mêmes questions que nous. Donc, ce n'est pas du tout une question. Fondamentalement, le mouvement qui est venu au départ, donc, à la fois des institutions de la recherche publique et du mouvement de Science en Marche, la première question pour nous, ce n'est pas le crédit impôt recherche. C'est on a besoin de postes maintenant, on a besoin de postes statutaires, on a besoin d'en finir avec la précarité, on a besoin de réorganiser et restabiliser l'enseignement supérieur et la recherche.
Et vous proposez un plan pluriannuel pour l'emploi.
Voilà, c'est ça pour nous l'important. Après, la façon dont le gouvernement veut le financer, quelque part, ce n'est pas tellement notre question.
Alors, juste un mot sur le chiffre. Oui. Geneviève Fiorazzo, que vous avez retrouvé.
Plus de 3/4 des bénéficiaires du crédit impôt recherche sont de petites entreprises fiscalement indépendantes. Ce n'est pas en somme, hein, c'est en pourcentage d'entreprises. Et près des 2/3 ont moins de 50 salariés. Donc, ce sont des petites entreprises fiscalement indépendantes.
Fin de la parenthèse, si vous voulez bien, parce qu'on est déjà presque au terme de l'émission, Geneviève Fiorazzo. Non, sur la question de l'emploi et de ce plan pluriannuel là aussi qui est proposé par Science en Marche, un plan pluriannuel de création d'emplois statutaires. Ça, c'est une forte demande de la communauté scientifique. J'évoquais en tout début d'émission quelques-uns des lauréats de ces prix prestigieux, notamment la médaille Fields co-attribuée à Arthur Avila, qui, quelques jours après avoir eu sa médaille décernée, disait dans les Échos qu'en mathématiques, le nombre de postes de chercheurs décroît de manière importante. S'il devient improbable de trouver un poste, les jeunes vont s'orienter vers d'autres carrières.
Alors, je crois que le problème pour les mathématiques, malheureusement, c'est qu'on manque de candidats. C'est pas un problème d'ouverture de poste pour le coup. Et les docteurs en mathématiques, encore je disais tout à l'heure, sont extrêmement sollicités. On n'a pas suffisamment de docteurs en mathématiques parce que les titulaires de master en maths et notamment en maths appliquées, mais même en maths fondamentales, sont préemptés par, y compris par le privé, qui manque de mathématiciens. Vous savez bien que pour le big data, pour tout ce qui est tout ce qui concerne les applications informatiques, mais aussi pour les innovations de rupture, parce que je ne veux pas opposer non plus ce que j'ai trouvé un peu archaïque, pardonnez-moi, c'est l'opposition recherche fondamentale, recherche appliquée. Dans les appels à projets ANR, dans cette année, en 2014, 78% des projets sont des projets de recherche fondamentale et c'est du déclaratif. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui juge, le ministère qui juge si c'est du fondamental ou pas. Donc, c'est 78% qui relèvent de la recherche fondamentale et 50% de nos budgets concernent la recherche fondamentale. Donc, on a une recherche fondamentale.
Peut-on revenir sur l'emploi ?
On a une recherche fondamentale en France qui est bien financée. L'emploi,
alors, sur l'emploi,
n'a pas baissé.
Est-ce qu'il faut par exemple titulariser les précaires ?
L'emploi n'a pas baissé. Il y a toujours eu un volet précaire qui s'est accentué dans le dernier quinquennat à cause des appels d'offres. Et moi, nous nous retrouvons face à cette situation, particulièrement en biologie. Donc, ça n'est pas vrai dans d'autres domaines.
Le stock n'a pas baissé, encore qu'il a baissé un petit peu. Par contre, le flux a énormément baissé.
Le flux
d'entrants a énormément baissé. Oui. Et c'est le problème majeur.
C'est ce que j'ai dit d'emblée.
Puisque les jeunes scientifiques qui sont formés actuellement, en gros, n'ont pas de débouchés.
Ils
en ont très peu.
Pendant 4 ans.
Et dans un certain nombre... Non, c'est plus que pendant 4 ans. Si c'était pendant 4 ans, on pourrait... anticiper.
J'ai la projection démographique, je peux la mettre à votre disposition également.
Le problème, si on prend les docteurs, par exemple, actuellement, on doit former en France 12 000 docteurs.
Oui.
Un certain nombre d'entre eux sont étrangers,
plus
mais il doit en rester 6 ou 7 000 qui sont français. Et si on fait la somme des postes qui sont créés dans l'industrie, pareil que le CIR, par exemple, c'est 0,7% du CIR, plus des postes dans les universités, plus les postes dans les organismes de recherche, on s'aperçoit qu'il va rester à peu près 1000 docteurs qui, de toute façon, n'auront pas de débouchés.
Ça fait du chêne.
Et les enseignants-chercheurs, et le fait qu'ils puissent aller à l'étranger.
Le CNRS,
aujourd'hui, a 31% de chercheurs étrangers. Donc la carrière, elle est aussi mobile à l'international.
Ce qui veut dire que ça fait encore moins de débouchés, en l'occurrence.
On a vraiment un problème de flux, parce qu'il y a eu le problème de démographie que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions, et qu'on a travaillé avec les organismes de recherche qui pourront faire des propositions plus favorables que celles qui vous ont été, faites préalablement.
L'emploi n'a pas baissé si on met tous les postes précaires à l'intérieur de l'emploi.
Non, mais l'emploi de fonctionnaire n'a pas baissé. Si, j'ai les chiffres.
CNRS, moins 1000 postes sur 10 ans.
Non.
Oui, mais si.
Si. Non, donc, mais j'ai les chiffres globaux.
Je pense qu'il y a une chose importante à souligner dans ces métiers-là. Pourquoi est-ce qu'on réclame des postes statutaires ? On pourrait dire, après tout, la précarité, c'est la même chose partout. Toutes les professions connaissent ça. Il faut vraiment comprendre que dans la recherche et l'enseignement supérieur, on travaille dans la longue durée. Et aller former des gens de façon très pointue, ce qui est un gros investissement de l'État quand même, de monter des gens à doctorat et au-dessus, pour ensuite leur dire, vous allez devoir changer de sujet régulièrement, vous allez être en précarité au bout d'un moment qu'ils abandonnent, on est dans une absurdité totale. Avoir des gens qu'on ne peut pas renouveler alors qu'ils sont investis dans des projets de recherche parce qu'on est justement arrivé au bout d'un certain nombre d'années de CDD et qu'il va falloir s'en débarrasser, c'est un vrai gâchis. Donc ce besoin d'emploi, c'est pas simplement parce que ça nous embête d'avoir des jeunes qui sont en difficulté, même si ça nous embête, c'est parce qu'on ne peut plus faire de la recherche et de l'enseignement supérieur dans de bonnes conditions si on ne résout pas ce problème de précarité.
Est-ce que vous craignez aussi une crise des vocations, c'est-à-dire par rapport à un statut peut-être précarisé, à des salaires qui ne sont pas mirifiques,
de ne pas avoir justement... Il n'est pas plus précarisé qu'avant, encore une fois.
On craint une crise de vocation, on commence à la voir arriver.
Il y a plein de flux.
On voit baisser les inscriptions en thèse, ça commence, et puis on voit des jeunes qui arrivent et qui voient effectivement fonctionner aujourd'hui l'enseignement supérieur et la recherche, et voient à quel point on n'arrive plus à faire notre métier correctement et qui n'ont plus envie d'y aller.
Dans la loi Fioraso, Geneviève Fioraso, il y avait la reconnaissance du doctorat dans la haute fonction publique.
Oui.
On en est où de ça
Le Conseil d'État a statué il y a 10 jours pour dire que les grands corps d'État pouvaient s'ouvrir aux doctorants, et par ailleurs nous menons toute une campagne auprès du secteur privé, parce que je crois aussi qu'il faut prévenir les doctorants. Tous les docteurs en biologie, tous ceux qui s'engagent dans une thèse en biologie, je prends cet exemple au hasard, mais c'est quand même là qu'on a le plus grand flux. Et donc la moins grande capacité, c'est pareil pour deux ou trois disciplines en sciences humaines et sociales. Il faut leur dire que le secteur privé est aussi un débouché. Il n'y a pas que le secteur public.
Ça l'a toujours été.
La majorité des docteurs
ont toujours été dans le secteur privé.
Non,
là où ils ne vont pas, c'est dans la haute administration française.
Je suis
française
désolée,
et dans l'administration territoriale.
Ça n'est pas vrai.
Si vous regardez les statistiques,
oui,
si, ça a toujours été le cas.
J'ai les statistiques. Trois ans après la thèse, 50% des docteurs...
Non, pas trois
ans, après. Pardon, cinq ans après la thèse, les docteurs français sont à 50% dans le secteur public, à 25% dans le secteur privé, qui finance 63% de la recherche. Donc, vous voyez bien qu'il y a un déséquilibre. Ils embauchent des ingénieurs, pas des docteurs.
Oui, mais ça
et
vient
ils sont
des
à 25%
docteurs,
dans d'autres métiers. Journalistes, scientifiques, médiateurs, fondateurs de start-up. Donc, on a bien un problème de manque de culture par le secteur privé, de la valeur d'un docteur tel qu'il est formé dans notre pays. C'est ça, moi, mon combat, il est là.
Bon, vous aviez eu 2h30 de discussion hein, quand vous vous étiez vu au mois de septembre. 3h de discussion. Nous, on a seulement 40 minutes. Donc, évidemment, on n'aura pas eu le temps de faire le tour de la question. En tout cas, merci d'avoir mené cette discussion. Si on s'en marche, ça continue. Ça n'a pas arrêté le 17 octobre. Il y a notamment une action commune, j'ai vu à Paris, prévue le 4 novembre prochain. Juste d'un mot, mais alors vraiment un mot.
Un dépôt de gerbe sur la statue de Marie Curie à l'Institut Curie et aller voir l'Assemblée au moment du débat sur le budget.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, Patrick Lemaire, Sophie Duchesne, Geneviève Fiorazzo, d'avoir participé à cette discussion qui va continuer, j'en suis sûr, sur notre site internet, la page du Grain à Moudre, franceculture.fr. Demain très vite, la production de nouveaux médicaments doit-elle se faire à n'importe quel prix? Ce sera notre sujet. Tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir Laurent.